Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h20 à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, municipal, les magasins sont-ils des lieux d'intérêt public? Le Premier ministre Édouard Philippe était aujourd'hui dans les Vosges pour évoquer la ruralité, la disparition de certains commerces de proximité dans les villages et dans les bourgs ruraux. Il a évoqué notamment la disparition des cafés et des autres lieux de sociabilité que sont les petits commerces. À quelques semaines des élections municipales, la question des commerces de centre-ville et de leur disparition, qui a souvent été d'ailleurs dénoncée par les Gilets jaunes, est revenue sur le devant de la scène politique. Dans le temps du débat ce soir, nous allons nous demander si ces magasins sont des lieux d'intérêt général avec Anaïs Dagneau. Elle est docteure en sociologie, membre du CERTOP à Toulouse. Elle sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Toulouse, que nous remercions de l'y accueillir. Elle est autrice d'une thèse « L'animation politique des marchés ». Vincent Chabot est avec nous. Il est sociologue à l'Université de Paris et à Sciences Po. Il est auteur d'Éloge du magasin contre l'amazonisation chez Gallimard dans la collection Le Débat. Nathalie Lemarchand est également avec nous. Elle est professeure de géographie à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, membre du laboratoire LADIS, et elle participe au groupe de recherche de géographie du commerce qui existe depuis 1973. Emeline Jupin est également avec nous. Elle est au téléphone depuis Saint-Martin-de-la-Cluse, près de Grenoble, où avec d'autres amis, elle a repris il y a quelques années le bar-épicerie chez Jeanne. On en parlera avec elle. Partout, le bonheur des dames rachetait les baux, les boutiques fermées, les locataires déménagés. Et dans les immeubles vides, une armée d'ouvriers commençait les aménagements nouveaux sous des nuages de plâtre. Ça doit être drôle pour les gens qui regardent défiler cette queue de faillite. D'ailleurs, il paraît que le nettoyage va continuer. Grenier, le parfumeur de la rue de Gramont, peut déménager et je ne donnerai pas 10 francs de la cordonnerie No, rue d'Antin. Le choléra souffle jusqu'à la rue Sainte-Anne ou la Cassagne qui tient les plumes et les fleurs. Et Madame Chadeuil, dont les chapeaux sont pourtant connus, seront balayés avant 2 ans. Après cela, d'autres et toujours d'autres, tous les commerces du quartier y passeront. Vous aurez peut-être reconnu un extrait de « Au bonheur des dames » d'Émile Zola qui racontait cette première vague de suppression de commerces dans les grandes villes et en particulier dans la capitale française à Paris pendant le 19e siècle sous l'effet de la création des grands magasins. Bonsoir à vous Nathalie Lemarchand.
Bonsoir.
Alors nous sommes dans quelle vague de suppression des commerces, vous qui travaillez depuis pas mal de temps sur cette question des commerces et en particulier des commerces de centre-ville du point de vue de la géographe que vous êtes?
Je dirais qu'on est sur la troisième vague, si on considère celle des grands magasins comme la première vague, puis celle des hypermarchés comme la seconde, et enfin celle du numérique comme la troisième. Donc on est sur la troisième vague de la transformation ou de la mutation des espaces marchands. On le voit dans la recomposition de la structure marchande des villes, à la fois en espace physique et puis en espace aussi, je dirais, virtuel. Donc un espace virtuel qui, cependant, aujourd'hui, prend ancrage dans les villes.
Oui, Vincent Chabot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, je rappelle, et vous êtes contre l'amazonisation. En tout cas, c'est le sous-titre de votre livre Éloge du magasin dans la collection Le Débat chez Gallimard. C'est cette troisième vague que vous tentez de raconter et les résistances de ceux et de celles qui ne veulent pas se laisser faire par cette amazonisation du monde.
Oui, l'amazonisation, c'est au-delà d'Amazon. Hein, voilà, l'amazonisation, c'est l'apparition d'une nouvelle culture marchande qui s'articule avec les plateformes, effectivement, autour de l'immédiateté, la quête de l'exhaustivité et des prix bas, et finalement face à cette dépendance aux plateformes qui s'est installée depuis les années 2000 en France, Amazon et d'autres, eh bien les magasins vivent une troisième forte concurrence depuis les grands magasins et l'empire d'Octave Mouret.
Anaïs Dagneau, vous avez dans votre thèse sur l'animation politique des marchés tenté de comprendre avec des exemples comme par exemple à Toulouse, dans le centre-ville de Toulouse, comment eh bien il n'y avait pas que des acteurs privés dans cette question du commerce et au contraire que les acteurs publics étaient de plus en plus nombreux, en particulier les municipalités.
Tout à fait. J'ai essayé de montrer justement dans ma thèse que depuis les années 90, on a vraiment un retour en force du politique qui s'intéresse de plus en plus au commerce par le biais de nouvelles politiques et par le biais aussi de la mise en place de ces nouveaux métiers de managers de centre-ville dont je parlerai tout à l'heure.
Alors, dites-nous tout de suite ce qu'on appelle des managers de centre-ville parce que ça ne paraît pas évident quand on n'est pas intéressé de prime abord à cette question-là.
Absolument. Alors les managers centre-ville, à la base, on va dire que c'était des professionnels qui ont été mis en place par les grandes enseignes. Donc les grandes enseignes ont essayé de détacher en fait leurs cadres et de les proposer aux municipalités pour qu'elles essayent de monter un petit peu justement sur ce sujet du commerce. On se rend compte aujourd'hui, je vous dis, comme depuis les années 90, que les municipalités prennent de plus en plus en charge cette question du commerce.
On en parlera dans un instant avec vous, mais auparavant, on va écouter d'ailleurs un éminent politique, puisqu'il s'agit de notre Premier ministre, Édouard Philippe, dans les Vosges, ce midi, pour faire la promotion de l'agenda rural du gouvernement, qui s'est par exemple engagé à attribuer des licences cadres gratuites et non transférables dans les communes de moins de 3500 habitants qui n'en disposent pas, et puis par exemple aussi du développement du projet qui est porté par le groupe d'économie sociale et solidaire SOS, visant à créer ou à reprendre 1000 cafés en milieu rural. On l'écoute.
La première priorité de l'agenda rural, c'est le soutien au commerce de proximité. On a tous connu, quels que soient les départements que l'on connaît le mieux, la boulangerie qui ne trouve aucun repreneur, l'entrepreneur qui renonce à ouvrir une enseigne, le bar qui parfois ferme et qui d'une certaine façon tue la vie sociale dans une commune et dans les communes alentours, parce que bien souvent on s'y retrouve. C'est souvent une catastrophe dans la vie d'une commune, et c'est souvent une catastrophe silencieuse, banale, quasi quotidienne. Parmi tous les commerces, je l'évoquais à l'instant, les cafés occupent une place à part. Je crois qu'il y a une formule, je ne sais plus qui l'a inventée, qui dit « le café, c'est le salon de ceux qui n'en ont pas ».
Voici ce que déclarait donc ce matin, ce midi, Édouard Philippe dans son voyage dans les Vosges avec beaucoup d'autres ministres qui l'accompagnaient pour défendre cette ruralité, ruralité que vous connaissez bien. Emeline Jupin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez, avec beaucoup d'autres, des amis, vous avez repris un bar-épicerie au centre du village de Saint-Martin-de-la-Cluse. Vous êtes à environ 30-35 kilomètres de Grenoble, sur le plateau du Trièves. Et vous avez tenté cette aventure depuis maintenant quoi, 4 ans ?
Un petit peu moins, on a repris en octobre 2016.
Et donc, avec ces 3 années et quelques d'expérience, est-ce que ce que vient de dire le Premier ministre, à savoir Édouard Philippe, disant que ce lieu du café était le salon pour ceux qui n'en avaient pas, était quelque chose que vous avez pu tester dans votre village du Trièves ?
Ben oui, c'est vrai que chez nous, enfin, c'est le seul commerce du village, donc... Le café, c'est le lieu où se retrouvent les gens, bien sûr, hein. Et puis toute génération, toutes les personnes différentes, quoi, du village peuvent venir et au café, mais aussi à l'épicerie.
Et donc, le fait que vous soyez à la fois bar et épicerie, que vous travaillez sur des produits locaux, que vous défendiez de l'agriculture bio, etc., etc., est-ce que vous avez un public diversifié qui vous permet justement d'être un vrai lieu d'accueil à la plupart des habitants du village et peut-être des alentours ?
Oui, on essaye effectivement d'être ouvert à tout type de population, des personnes âgées qui vont venir faire leurs courses très régulièrement à l'épicerie, aux gens plus de passage qui vont venir manger au resto, parce qu'on fait aussi resto. Voilà, on essaye vraiment de répondre à différents types de populations. Oui.
Et cela, vous le faites à combien ? Parce que vous êtes nombreux, des bénévoles, des salariés, pour pouvoir faire tourner cette boutique épicerie-bar ?
Alors au départ, on a repris à 9 personnes le projet, et puis on a essayé de s'étendre parce que notre souhait, c'est de faire en sorte que les gens du village puissent s'impliquer. Donc aujourd'hui, on est 40 associés.
40 voilà, associés.
Une quarantaine d'associés. Alors tout le monde n'est pas impliqué de la même manière, mais on va dire qu'il y a une bonne quinzaine de personnes très actives. 4 salariés donc sur le commerce, et puis... voilà, qui sont aussi bénévoles d'ailleurs, et une quinzaine de bénévoles très actifs qui font des plages à l'épicerie, au bar, qui permettent d'organiser des concerts, etc.
C'est la condition d'ailleurs, j'imagine, ce nombre assez important de personnes qui s'en occupent, pour qu'il n'y ait pas de lassitude. Vos prédécesseurs, qui étaient un couple, je crois, ont baissé les bras à partir d'un certain moment, parce que les plages horaires de ces commerces en ville, en bourg, dans des petits villages, sont très très larges, et donc on fait beaucoup d'heures.
Oui, alors on ne peut pas dire qu'ils ont baissé les bras, ils avaient l'âge de la retraite aussi, donc
d'accord.
C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Mais effectivement, ils passaient plus de 70 heures chacun par semaine dans le commerce, et nous, notre souhait, c'est de pas avoir ce modèle justement où on fait que travailler. Donc on essaye d'être plus nombreux pour ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même à peu près à presque 50% de bénévolat sur l'activité en général, quoi.
Vincent Chabot, vous qui avez écrit l'éloge du magasin, c'est un exemple qui peut servir de modèle dans d'autres endroits. J'imagine que de toute façon, il n'y a pas véritablement de modèle, mais néanmoins, est-ce que ce travail en commun, ce mélange de bénévolat et de salariat pour pouvoir justement tenir un petit magasin qui permette de faire vivre un maximum le village, est-ce que c'est un modèle ?
On parle souvent de consommation engagée, là on est dans la distribution engagée. C'est-à-dire que ce modèle-là et d'autres, je pense à la librairie La Cavale à Montpellier par exemple, qui fonctionne un peu de la même manière, qui repose sur des bénévoles aussi et des salariés, eh bien ça nécessite effectivement un engagement, une passion de la part des personnes qui s'inscrivent dans ce projet.
Oui, Nathalie Le Marchand, c'est un exemple de cette troisième vague dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, on le voit aujourd'hui, la question du commerce suscite plusieurs discussions, alors suscite un débat autour du modèle de consommation et suscite donc aussi des discussions et des réflexions sur les formes que peut prendre le commerce. Donc là, l'exemple de cette reprise presque d'une forme coopérative dans le milieu rural pour animer et faire vivre un commerce, qu'il reste encore un commerce, donc qu'il soit un lieu de rencontre, puisque faut revenir à cela, ce que vous soulignez tout à l'heure, on le voit bien, c'est un espace d'échange, de sociabilité, et c'est ça qu'on perd quand il disparaît totalement des espaces. Et la forme coopérative, c'est une façon, on peut penser au supermarché La Louve à Paris, c'est une forme aussi effectivement de se réapproprier pour les consommateurs, pour les citadins, pour les citoyens, un espace qui est un lieu où il faut qu'on puisse satisfaire ses besoins, mais où aussi on peut avoir un échange et chercher un nouvel modèle de société.
Anaïs Dagneau disait tout à l'heure, Émeline Jupin, effectivement que le politique avait son rôle à jouer dans ces questions-là. On a parlé du Premier ministre, mais souvent, le politique, c'est le politique le plus proche. Ça peut être le conseiller départemental, ça peut être aussi le maire ou la maire du village. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu aussi du côté de chez Jeanne à Saint-Martin-de-la-Cluse?
Alors, c'est vrai que la mairie, elle est engagée, puisque d'abord, c'est elle qui porte le fonds de commerce et la licence 4, pour le coup, chez nous. Et du coup, lorsque les gérants ont arrêté, c'est la mairie qui a lancé l'appel à projet pour la reprise.
Ça vous a permis aussi d'avoir une sorte de facilité, parce que la licence 4, c'est important pour un commerce comme le vôtre, bar épicerie.
Bien sûr, oui, tout à fait, oui.
Anaïs Dagneau, ce politique, vous l'analysez, cette action politique, dans votre thèse qui s'intitule donc l'animation politique des marchés. Vous expliquez que pendant très longtemps, par exemple, les chambres de commerce ont regardé d'un mauvais œil l'intrusion du politique dans la gestion des commerces d'une ville ou d'un village, et que petit à petit, le politique s'est glissé dans les interstices en disant c'est notre rôle aussi d'animer nos centres-villes, d'éviter qu'ils ne meurent. Et c'est ce que vous analysez à partir du cas de Toulouse, mais aussi d'autres cas dans votre travail de sociologie, Anaïs Dagneau.
Absolument. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à partir des années 90, on a commencé à prendre en considération les impacts du développement commercial, et notamment en périphérie des villes. Donc les élus, en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le commerce, qui était un problème privé, est devenu un problème public, dans la mesure où ça devenait un problème urbanistique, sur lequel, du coup, les élus avaient toute légitimité à intervenir. Donc c'est aussi à partir des années 90 qu'on voit qu'on va commencer à recruter des managers de centre-ville dans les villes, au sein des municipalités. Donc, au début, c'était souvent des initiatives entre les villes et les chambres de commerce. Et petit à petit, on se rend compte que c'est de plus en plus les villes qui prennent en charge ces initiatives.
Et ils le prennent parce qu'ils ont conscience, les municipalités ont conscience que sans le faire, le commerce lui-même ne suffirait pas à soutenir l'activité et empêcher la fermeture des magasins.
C'est vrai que c'est un enjeu nouveau, parce que c'est vrai que cet enjeu de vacances commerciales, les commerces qui ferment, les centres-villes, les centres-bourgs qui se vident de leur commerce, c'est un enjeu qui est réellement visible, je dirais, depuis les années 2010. Donc c'est un problème très récent. Et je pense que les élus, les acteurs politiques sont encore en train de chercher des solutions. Parmi ces solutions, justement, il y a les managers de centre-ville qui vont être là justement pour accompagner les porteurs de projets, pour aussi essayer de mettre en place des stratégies entre, par exemple, les commerçants, les chambres consulaires, les acteurs politiques, essayer de mettre en place justement des stratégies collectives pour redynamiser le centre-ville. Donc je dirais que les acteurs privés, ils sont toujours là, Mais c'est le politique qui pilote maintenant. Et c'est ça qui est différent, je dirais, depuis peu de temps.
Nathalie Lemarchand, puis Vincent Chabot, sur cette intrication, pourrait-on dire, entre politique et commerce.
Alors en fait, c'est vrai qu'il y a une accélération de la vacance commerciale depuis les années 2000. Et puis on a vu...
Donc, ça veut dire fermeture de nombreux magasins, c'est ça, accélération de la vacance commerciale.
Oui, c'est ça. Tout à fait. La fermeture d'un certain nombre de magasins, donc qui sont liés à la transformation, à la mutation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une conjugaison d'ouverture de grandes surfaces à la périphérie qui absorbe une partie du flux de la clientèle de la ville. Et puis les plateformes numériques. Donc là, je dirais, pour les commerces de centre-ville, il y a deux concurrences qui convergent. Sur la question de l'implication du politique, c'est un peu plus ancien, en fait. Et c'est la spécificité française avec ce qu'on appelle l'urbanisme commercial, qui est né dans les années 70 avec la loi Royer. Mais effectivement, en fait, jusqu'aux années 90 et 2000, avec cette émergence de la vacance de façon assez importante, les politiques étaient moins impliquées. Il y avait de l'urbanisme commercial, il y avait la réglementation qu'on appliquait plus ou moins, d'ailleurs plutôt moins que plus. Mais c'est très récent que la prise de conscience et l'intervention émerge. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que le rapport de force n'est pas toujours en faveur des acteurs publics, malheureusement.
Vincent Chabot, dans votre livre sur l'éloge du magasin, on pouvait s'attendre à une défense du petit commerce, etc., pour ses vertus justement d'animation du centre-ville, mais vous ne crachez pas non plus sur l'hypermarché ou le supermarché, c'est plutôt effectivement l'amazonisation que vous mettez dans votre cible. Vous dites par exemple, en reprenant François Maspero, que l'hypermarché ou le supermarché, c'est là où les gens viennent tromper l'ennui pour être un moment avec d'autres gens dans une société qui émiette les individus. Et vous reprenez d'une certaine façon ce que dit aussi Annie Ernaux dans son livre « Regarde les lumières, mon amour » où elle dit « Le super et hypermarché ne sont pas réductibles à leur usage d'économie domestique et à la corvée des courses ».
Le magasin a été, par les sciences sociales, vu comme souvent un simple lieu d'écoulement de la production capitaliste, c'en est un bien entendu, voire un lieu de manipulation, dans une approche plus critique, comme Jean Baudrillard par exemple, celle de Jean Baudrillard. Et en lisant Annie Ernaux, en lisant Faïza Guen, en lisant Michel Houellebecq, effectivement, et en lisant toute une série d'enquêtes sociologiques que j'ai pu regrouper dans ce livre, on voit effectivement une vie subtile qui s'y déroule, des processus sociaux. Le magasin, c'est un lieu d'approvisionnement, bien entendu, mais c'est un lieu social, un lieu de relation, un lieu de construction identitaire, un lieu de distinction, un lieu aussi, une réponse aux besoins d'appartenance. Et finalement, le grand commerce, le petit commerce, le moyen commerce sont des lieux sociaux qui méritaient effectivement une exploration.
Émeline Jupin, est-ce que vous avez souffert, là où vous êtes, à Saint-Martin-de-la-Cluse, de la concurrence, par exemple, de centres commerciaux, ou est-ce qu'ils sont trop loin d'une certaine façon pour que vous en ressentiez les effets négatifs?
Bon, je pense pas qu'on puisse parler de concurrence avec les autres commerces. En fait, c'est vrai qu'enfin tout le monde ne fait pas toutes ses courses dans notre petite épicerie, bien sûr, mais c'est comme s'il y avait une petite hiérarchie en fait des types de commerces. Et nous, on sert les personnes du village soit pour les courses en appoint pour certains et puis quelques-uns pour l'ensemble de leurs courses. Mais voilà, je pense pas qu'on puisse parler de concurrence par rapport à ça.
Et donc, vous ne vous sentez pas menacé d'une certaine façon par ces grandes surfaces qui peuvent être à quelques dizaines de kilomètres de chez vous et qui, où souvent, on fait les courses et on remplit le caddie?
Oui, non, parce qu'on apporte autre chose, en fait. Enfin, voilà, quand on parle du lien social et de la discussion qui va pouvoir naître sur les produits qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas hier. Parfois, on va répondre à une demande particulière d'un client parce qu'il a besoin de telle chose. Et ben, on ira le chercher pour qu'il le trouve quelques jours après. Enfin, voilà, c'est un lien quand même particulier. Et puis, on essaye aussi d'avoir des tarifs, même si on est une épicerie, qui sont abordable pour les gens. On a dit qu'on développait le bio, mais par exemple, on essaye de mettre le bio à un tarif pas tellement plus élevé que ce qui est pas bio pour attirer les clients. Mmh. Voilà.
Vincent Chabot.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le commerce suit un peu les transformations de la société. Et ce témoignage est assez éclairant, puisque finalement, on observe quand même, depuis quelques années, ça reste minoritaire, mais c'est quand même visible, l'apparition de nouvelles cultures marchandes qui s'articulent autour du bio, de la traçabilité, de la proximité, de la qualité des produits. Et finalement, dernière étape, on a un appareil commercial qui s'adapte. Et là, ce cas-là est exemplaire de cette adaptation.
Nathalie Lemarchand.
Oui, donc à la fois il y a la question de l'adaptation, et puis ce qui est intéressant, ce que souligne donc Madame dans le café épicerie qu'ils tiennent, c'est que on a une partie de la clientèle qui est une clientèle finalement captive de ce village. Donc quand Madame souligne que une partie de la clientèle est clientèle âgée, donc à la fois, je dirais qu'en termes de besoins, effectivement, l'hypermarché, le supermarché, d'abord c'est trop loin, elle peut pas forcément y aller, puis elle a pas forcément besoin de toute cette marchandise. Donc là, elle peut trouver satisfaction avec un échange social, donc au sein de cette épicerie-bar. Et puis sinon, c'est le dépannage, la pointe.
France Culture, le temps du débat.
Les grands magasins, c'était pas tant, on peut dire maintenant que le vrai Paris.
Emmanuel Laurentin.
Ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries.
Ces planètes séduisent vous, sont sur la terre, paradis des enfants et de leurs mères.
Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, il y a des pantins, des robes en satin. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, on trouve du fusain et du rouge raisin.
De la
mercerie,
de la gagnetterie, de la papeterie, de la parfumerie, des pains, des joujoux, bref, on est bon de tout.
Où? Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, on vend du chauvin, du lupin. Dans les magasins, les magasins, dans les magasins, les magasins.
Dans les magasins de Bac et Laverne et Nina Miral. C'est un titre de 1928. Vous écoutez le temps du débat municipal. Les magasins sont-ils des lieux d'intérêt public? Nous en débattons avec Vincent Chabot, auteur du livre Éloge du magasin, de Nathalie Lemarchand, géographe à Paris 8 Vincennes, qui participe à un groupe de recherche de géographie du commerce qui existe depuis 1973. Et puis Émeline Jupin est avec nous au téléphone depuis Saint-Martin-de-la-Cluse, où elle tient avec certains de ses proches un commerce, donc près de Grenoble. Et Anaïs Dagneau, vous êtes docteur en sociologie et vous êtes autrice d'une thèse sur l'animation politique des marchés. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que fait la puissance publique en général pour la revivifier ces centres-villes et ces magasins de centre-ville? Il y a eu une grande action qui a été menée à partir de mars 2018 qui s'appelle l'action Cœur de Ville. Je crois qu'il y a 222 villes moyennes qui ont été touchées. Est-ce qu'on a déjà des résultats ou est-ce que c'est trop tôt pour savoir justement si cette façon de revivifier les centres-villes fonctionne?
Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Action Cœur de Ville, c'est aussi une action qui est transversale et qui vise pas uniquement le commerce. On parlait tout à l'heure de vacances commerciales. Ce que les chercheurs en ont aussi compris de cette vacance commerciale, c'est aussi finalement la partie visible d'un iceberg qui est en fait le manque d'attractivité générale d'un territoire. Puisque le problème de la vacance commerciale, c'est pas juste qu'il y a plus de commerce dans un centre-bourg ou d'un centre-ville. C'est aussi le fait que les services publics sont en train de partir, qu'il y a des entreprises, par exemple des banques, qui partent également, qu'il y a une perte d'habitants. Donc cette revalorisation des centres-villes, elle ne peut pas concerner uniquement le commerce, elle doit être générale. Et la philosophie un petit peu d'Action Cœur de Ville, c'était justement de dire on ne va pas traiter que le commerce, on ne va pas traiter que le logement, on va essayer d'avoir une action générale qui soit transversale justement sur l'ensemble du centre-ville.
Nathalie Lemarchand, allez-y, continuez, excusez-moi.
Non, j'allais dire que je ne sais pas si ça marche réellement, mais on voit qu'en tout cas, on commence à avoir des nouvelles approches beaucoup plus transversales face à ce déclin, si on peut dire comme ça, des territoires.
Nathalie Lemarchand, on voit parfois des maires payer de leur poche, prendre des emprunts, par exemple, pour pouvoir, alors qu'ils sont maires, justement, permettre le rachat de tel ou tel commerce, etc. Donc on voit bien effectivement que l'action publique reprend la main en se disant on peut pas laisser faire, mais comme vient de le dire Anaïs Dagneau, il faut aussi travailler sur le logement, sur les écoles, sur l'attractivité en général des territoires.
Oui, alors je suis vraiment contente d'entendre cette idée d'activité transversale ou de transversalité, parce que ça, c'est quelque chose en géographie, on le soutient depuis longtemps. Moi, ça fait partie des choses que je dis et je répète souvent aux acteurs publics avec qui j'ai des échanges, et même privés, c'est que l'activité commerciale, elle n'est pas aterritoriale, elle n'est pas hors sol, elle est connecté avec le reste de ce qui fait une ville, ce qui fait la vie d'une ville. Et donc effectivement la question du logement, la question des autres activités, on s'aperçoit, alors il y a différentes catégories de territoires, hein. Aujourd'hui l'action cœur de ville c'est 220 donc villes moyennes, mais il y a d'autres villes qui ont été aussi touchées par la question de la vacance commerciale. Alors après il va y avoir des différences selon la distance par rapport à une métropole, selon vraiment une zone plus désertifiée que d'autres. Et puis la question du logement, ben oui, on s'aperçoit que le périurbain donc est très attractif à la fois pour les nouveaux logements, à la fois pour les activités économiques, et on s'aperçoit aujourd'hui les hôpitaux, etc., vont à la périphérie. Donc il y a des actions qui doivent mener sur l'ensemble du centre-ville.
Et il y a tout de même quelque chose que vous pointez du doigt dans votre livre Éloge du magasin, Vincent Chabot, c'est la spectacularisation des courses. C'est la spectacularisation du commerce, c'est-à-dire cette mise en spectacle qu'on a connue dès le XVIIIe siècle dans des grandes capitales comme Paris, au XIXe siècle avec les grands magasins, eh bien elle continue avec ces centres commerciaux qui deviennent des lieux de spectacle, d'exposition de soi, d'exposition de ses propres désirs, etc. Comment faire quand on n'a pas cette mise en spectacle, comment faire pour animer justement des commerces ou les faire renaître dans des endroits où il est difficile de mettre en place cette spectacularisation du commerce?
Effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que l'attractivité commerciale, elle repose aujourd'hui effectivement sur différentes animations. On l'a vu pour le projet Europa City, qui au début était effectivement un projet commercial, et puis de fil en aiguille, on voyait que c'était un projet.
Oui, conseiller à nos auditeurs d'écouter l'émission que nous avons fait il y a quelques mois sur le projet Europa City. C'était sûrement l'émission la plus dingue qu'on ait jamais faite dans cette émission Le Temps du Débat, où tout le monde s'est engueulé de façon tout à fait ferme.
Finalement, c'est devenu un parc de loisirs, un parc de divertissement, etc. Là aussi, les centres-villes essayent de faire reposer leur attractivité sur d'autres dimensions que le commerce. Ça peut être la culture, ça peut être effectivement le lien social comme on l'a vu tout à l'heure. Bref, l'idée c'est effectivement d'orienter hein, les habitants après 40 ans où le centre-ville n'est plus devenu incontournable pour s'approvisionner. Donc il faut aussi renouer avec ses pratiques d'achat, ses habitudes d'achat.
Oui, il faut dire tout de même que ce projet Europa City, par exemple, il a échoué, il ne se verra pas le jour, et que c'était effectivement un espoir pour les gens, en particulier pour le maire de Gonesse et pour les mairies aux alentours, mais qu'il y avait une forte contestation de la création artificielle, pourrait-on dire, de cet énorme centre commercial et de loisirs qu'était Europa City. Anaïs Dagneau, il y a tout de même dans le travail que mènent les élus, effectivement, cette volonté, je parlais de spectacularisation, de montrer qu'on fait quelque chose. Comment faire quelque chose avec du micro, par exemple, alors qu'on a longtemps fait quelque chose avec du macro, c'est-à-dire des très grands centres commerciaux en périphérie des villes?
Absolument. En fait, les élus, par le biais de ces fameux managers de centre-ville, vont essayer de réanimer un peu leur centre-ville, d'inciter les commerçants à se dynamiser, à faire des animations, à se moderniser aussi. Alors, il y a quand même pas mal de managers centre-ville, par exemple, qui encouragent à la fameuse digitalisation des commerces.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Le fait de pouvoir être visible en ligne, le fait d'avoir sa plateforme. On a même des élus en fait, qui financent, par exemple, la création d'une plateforme électronique, même si ça se fait un petit peu moins qu'avant, pour les commerçants locaux. Donc, spécialement pour l'association de commerçants locales, qui aura son propre site internet pour essayer justement de concurrencer le commerce électronique.
De votre côté, Emeline Jupin, on peut se poser une question. Certaines analyses ont été menées par le Conseil d'analyse économique qui a dit que là où il y avait eu fermeture de supérettes, là où il y avait eu fermeture de petits commerces, les gilets jaunes étaient, les mouvements des gilets jaunes étaient plus nombreux, plus durs, plus fréquents, parce que on avait surtout pointé du doigt la fermeture des services publics, mais que ces fermetures de commerces de proximité étaient aussi à la base de mouvements de colère. Qu'est-ce que vous en pensez, Emeline Jupin?
Oui, sans doute. C'est vrai que Alors nous, on a fait quelques débats autour des questions des gilets jaunes et du coup, on essaye d'organiser pas mal d'animations. Alors je vais peut-être répondre un petit peu à côté, mais on parle de la spectacularisation. Là, on peut donner 2-3 exemples de choses qu'on a essayé de mettre en place, nous aussi, pour attirer du monde et puis de l'envie, de venir nous voir, de participer à notre histoire, en fait, à notre projet. Par exemple, notre barmaid est aussi une boulangère et donc elle a installé pendant toute une année régulièrement son four à pain dans la cour de l'épicerie et elle faisait son pain directement devant les clients qui pouvaient venir l'acheter après une fois qu'il était réalisé, quoi. Et on a fait aussi des cafés pour enfants pour attirer les parents avec leurs enfants sur des activités un peu ludiques, créatives, après des concerts, etc. Mais
c'est nécessaire justement pour pouvoir à la fois attirer, montrer qu'on existe, qu'on participe à la vie du village. C'est nécessaire que de faire toutes ces animations supplémentaires au-delà du travail supposé du commerçant de bar épicerie.
Alors c'est nécessaire, mais surtout c'est aussi l'envie qu'on a, quoi, de montrer autre chose et de pas juste être dans l'activité commerciale, quoi.
Nathalie Lemarchand.
Oui, donc c'est intéressant de souligner, que Madame vient de souligner que c'est à la fois, c'est nécessaire et c'est l'envie. Donc les
deux. C'est du plaisir aussi.
Oui, c'est ça. Les deux sont conjugués, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur un espace social, un espace de rencontre, un espace d'échange. Et d'ailleurs, donc historiquement, avoir un bon commerce avec quelqu'un, c'était avoir un bon échange avec quelqu'un. Et donc, il n'y avait pas la question économique, c'était vraiment l'échange social. Il est de bon commerce, il est plaisant à fréquenter, avec qui avoir un échange. Donc sur la question de l'aspect l'aspect spectaculaire, si on revient sur les centres-villes sur notre territoire en France, il y a eu tout un processus de ce qu'on va appeler la patrimonialisation des centres-villes.
La création des centres-villes piétonniers, par exemple.
Le renouvellement, la rénovation des façades, et on fait des parcours maintenant dans ces villes. Donc on va vous indiquer à tel endroit il y a eu donc tel écrivain, tel auteur, il s'est passé telle chose. La vitrine, certaines des vitrines d'ailleurs aujourd'hui, sont du patrimoine de la ville, donc par leur ancienneté, par leur qualité.
Et puis on voit aussi ceux qui s'étaient éloignés des centres-villes, à savoir les grands supermarchés, les grands groupes, les grands hypermarchés, qui les regagnent en récupérant des petits commerces de proximité, petites supérettes, justement, Vincent Chabot.
C'est un mouvement très fort qu'on observe depuis le début des années 2000, dans les grandes agglomérations à Paris, dans les grandes villes, où effectivement la grande distribution fait son entrée en masse sous le régime de la franchise, souvent, dans les grandes villes, et en ouvrant des nouveaux concepts qui effectivement sont cohérents avec cette demande de proximité, etc. Il y a plusieurs exemples, Franprix par exemple, où finalement ces grands acteurs de la distribution vont jouer et vont puiser dans l'imaginaire positif de l'épicier, transformant un distributeur en commerçant de quartier, en épicier de quartier.
Mais ça, c'est une sorte de jeu, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'on récupère une image, on la transforme, et puis on est soi-même membre d'un immense groupe, mais on se transforme en petit épicier de quartier.
On s'adapte, ce sont des stratégies de proximité. Juste, je voulais revenir sur la question du numérique. Je pense que les deux sont complémentaires, et ce que Anaïs Dagneau a parfaitement souligné, c'est qu'effectivement, je prends deux exemples. Chez Mon Libraire, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou Paris Librairie à Paris, le numérique est au service du magasin. C'est-à-dire que ces portails indépendants de librairies indépendantes vous font visualiser chez vous le stock, la disponibilité de telle ou telle référence, non pas pour vous livrer chez vous, mais pour vous réserver le titre
dans les points
magasin.
Relais.
Exactement, dans les librairies. Pour amener des clients et découvrir d'autres livres lors de son passage en magasin, en librairie.
Et cela, Anaïs Dagneau, c'est pensé à la fois par les acteurs du commerce de proximité, mais aussi par la puissance publique, où c'est vraiment essentiellement les commerçants qui s'intéressent à ces questions?
Ça dépend des territoires, je dirais. On voit vraiment les deux cas. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que quand c'est les acteurs publics qui portent le projet, ça peut être très difficile, en fait, de...
Vous voulez dire que le privé marche mieux que le public dans ces cas-là?
Toute innovation marche forcément mieux quand c'est les principales concernées qui la portent. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand ça émerge des commerçants, quand il y a vraiment un désir de se moderniser ou de se digitaliser, on voit que ces plateformes ont tendance à mieux marcher que si c'est le politique qui essaye de porter, souvent difficilement, une démarche avec des commerçants qui peuvent être plus ou moins réfractaires.
Nathalie Lemarchand.
Pour compléter donc ce que dit donc Anaïs sur cette question des acteurs publics et des acteurs privés, une des difficultés probablement des acteurs publics, mais enfin voilà donc c'est que les acteurs publics doivent s'adresser à l'ensemble de leurs commerçants. Donc ils doivent porter cette proposition d'un portail pour l'ensemble des commerçants et ils sont tous à des avec des niveaux, des variations différentes par rapport au numérique. Alors que l'acteur privé, bah, lui, il entraîne effectivement dans son espace et dans un ou avec un groupe donc l'innovation.
Oui, parce que Vincent Chabot, vous insistez tout de même sur l'émiettement, sur l'individualisation, sur le désir personnel de chacun d'entre nous d'être à la fois en ville, mais aussi un peu à la campagne, d'être à la fois un bourgeois bohème et puis en même temps à vouloir avoir les pieds dans la glaise, etc. Cette espèce d'ambiguïté que nous avons tout le temps et que nous avons de commander sur Amazon ou sur un autre portail international des produits et en même temps, personnellement, de dire, mais je préfère justement aller chez mon libraire ou aller chez mon commerçant de quartier.
Dans ces débats sur la municipalisation, par exemple, de la gestion du commerce dont on vient de parler, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, ce sont les consommateurs, vous avez raison, avec ces paradoxes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'y arrivera pas si finalement le consommateur citoyen n'est pas aussi engagé. C'est pour sortir de cette contradiction que vous venez de souligner, entre d'un côté, effectivement, se satisfaire d'une livraison individuelle à domicile et en même temps de déplorer collectivement la fin des magasins dans son quartier.
Oui, et vous dites aussi, vous parlez de ce que la sociologue américaine Elizabeth Currie Dalkett appelle la classe ambitieuse, c'est-à-dire celle qui se distingue de la classe de loisirs qui a longtemps été au cœur de la réflexion sur le commerce, celle qui avait été déterminée par Thorstein Veblen. La question, vous dites, eh bien, c'est la production ostentatoire qui compte, c'est-à-dire c'est se dire, eh bien, je vais acheter quelque chose qui correspond à un producteur, un petit producteur, etc.,
une histoire,
etc.
À une origine,
à une histoire.
Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, donc elle décrit effectivement le style de vie des nouvelles classes, des nouvelles élites urbaines américaines, c'est que le magasin a tout à fait sa place. Parfois même des artisans dont l'image est remodernisée et voilà, symboliquement a une image beaucoup plus moderne. Les barbiers, les bouchers, les commerces de bouche, etc., et les libraires aussi. Et
Emeline Jupin, est-ce que vous avez l'impression de bénéficier justement de cette attention portée à l'origine des produits, à leur histoire que vous devez raconter à ceux et celles qui viennent avec vos amis donc à Saint-Martin-de-la-Cluse chez Jeanne?
Oui, bien sûr, on porte une grande attention aux produits et on disait qu'on n'avait pas parlé beaucoup des consommateurs, mais les fournisseurs aussi, nous, on a une grande attention à développer le lien avec tous nos fournisseurs, d'autant plus quand ils sont locaux, maraîchers, et puis ou qui sont en bio, quoi. Mais effectivement, on développe ce lien.
Merci beaucoup. Et si on passe du côté de Saint-Martin-de-la-Cluse, on passera à vous dire bonjour. C'est près de Grenoble, à 35 km de Grenoble. Merci à vous, Emeline Jupin, et à ceux qui, et celles qui travaillent avec vous dans votre bar épicerie chez Jeanne. Merci à vous, Nathalie Lemarchand, et votre travail de géographe sur cette question du commerce. À vous, Vincent Chabot, auteur de Éloge du magasin, et à Anaïs Dagneau, dont on attend la publication de la thèse. On l'espère en tous les cas pour vous. Merci également au studio de Radio France à Toulouse et à Laure Sixic qui était à la technique. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bail, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prissé à la technique à Paris, Élise Lehe à la réalisation, Alexandre Manzanares. Vous voulez rajouter un tout petit mot, Nathalie Lemarchand, très brièvement?
Oui, très brièvement. Je vous remercie et je voudrais dire donc que aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une grande contestation dans le milieu de l'université, l'enseignement supérieur et la recherche par rapport à la prochaine loi donc en discussion sur la recherche qui aura pour conséquence, si elle passe, de réduire la participation des chercheurs, par exemple, à des émissions telles que celle-ci,
mais
à laquelle
non,
nous avons
toujours
plaisir à participer. Oui, mais à partir du moment où nos activités seront calculées sur la base d'articles, par exemple, en langue anglaise, dans des revues internationales, nous n'aurons plus le temps de cette participation.
Eh bien, merci d'avoir évoqué cette question de la loi sur la recherche. On en reparlera, on en a déjà parlé dans le temps du débat, il y a peu de temps. On en reparlera d'ici quelques temps.